Les soyeux du dimanche.
C'est quoi un soyeux ?
Les soyeux du dimanche.
Un fainéant.
Quelqu'un de joyeux ?
Soyeux, terme picard et wallon, signifiant fouteur de merde, empêcheur de tourner en rond.
Et bonjour chers auditeurs, bienvenue pour cette première de LSD. Alors LSD en studio aujourd'hui, c'est avant tout Stéphane à la technique. Et on a aussi
Christian et
Emmanuel
et moi-même Luc au micro. Voilà, alors LSD ça pourrait être Lucy in the Sky with Diamond, mais ça n'est pas ça et ça n'est pas non plus...
Les dentistes...
Non, et d'ailleurs, il faudra attendre quelques instants pour savoir exactement qui on est, parce qu'on va d'abord, je pense, écouter Brigitte Fontaine.
L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Jusque dans les WC, j'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque. Les curés en chaleur, les idoles en pleurs. Les mimes, les boulouches, n'ont que ça à la bouche. À de grâce, arrêtez de vous badigeonner. De cette pub idiote, j'en ai plein la culotte. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. Barre de dégoulinant, scribouillard pleurnichant. Délicat militaire, épargnez nouveau glaire. Vénus au stade creuse, mets la dent conveilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Vénus au stade creuse, mais la dent corveilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos.
Et merci à Brigitte Fontaine. Alors, les soyeux du dimanche. On va se présenter parce que, effectivement, sur Radio Air Libre, on est tout nouveau, on vient d'arriver, c'est notre première émission, mais on en a déjà fait ailleurs. Et pour se présenter, la parole est à la Défense.
Alors, qui sommes-nous ? Eh bien, nous sommes donc les animateurs des soyeux. Soyeuse du dimanche, avec l'accent s'il vous plaît.
Hein ?
Qu'est-ce qu'un soyeux ? En picard, langue dialectale moucronoise, comme en wallon, d'ailleurs, le verbe soyer signifie scier, dans le sens d'énerver, d'importuner. Toutefois, le soyeux, la soyeuse, sont des termes éminemment régionaux qui qualifient les personnes d'exaspérantes. D'ailleurs, en Picardie, le nom de l'objet balancier pittoresque qui trônait sur des comptards d'estaminets et qui était mu par le patron pour désigner un client d'enquiquineur ou de vraiment soyeux en est dérivé. Quoi qu'il en soit, le soyeux, la soyeuse sont des personnes qui dérangent.
Tout à fait. Et alors, on pourrait se demander d'où on vient, d'où sommes-nous ? Alors, nous sommes quatre animateurs à avoir animé des émissions à Radio Kichifel, qui est une radio de la même veine qu'Air Libre, qui a commencé ses émissions en décembre 79 à Moucron, coincé près de la Flandre et de la France. C'est pour ça que nous sommes parfaitement bilingues, français, picard. Suite aux retrouvailles des 40 ans de RQC, nous avons repris le chemin des studios et nous avons réalisé une émission mensuelle à l'image de ce que nous concoctions autrefois, c'est-à-dire éclectique, je vous laisse regarder au dictionnaire, entre musique, reportage et discussion en studio. Mais nous n'avons pas retrouvé l'esprit ouvert que nous connaissions il y a 40 ans. Et cela nous pose problème. Nous ne sommes pas aussi parvenus à convaincre de réinventer une dynamique collective et d'approche critique des réalités sociales. Bref, en un mot commençant, suite à cette divergence d'opinion quant au fonctionnement pseudo-sociatrique, sociocratique de RQC, nous l'avons quitté en décembre.
Pourquoi choisir Air Libre ? Parce que cette association est reconnue d'éducation permanente, parce qu'elle dit non à la pub et au sponsoring, parce qu'elle laisse la parole à ceux qui ne l'ont que très rarement ou pas. Grâce à l'accueil de cette radio, nous avons l'opportunité d'entamer un nouveau projet. Nous espérons enrichir notre petite expérience par notre participation à Radio Air Libre et pourquoi pas aussi par vos retours à vous, auditrices et auditeurs.
Donc à vous de nous dire si nous sommes vraiment des soyeux.
Ou pas.
Et maintenant, normalement, nous écoutons Noé Preskov.
À nous dans le désordre, mais dans l'intransigeance, à nous qui devons mordre et à nous dans l'urgence, à nous pas à la mode, à nous dans le décor, à nous qui ne savons pas comment tenir nos corps, à nous dans l'univers, à nous dans l'infini, à nous dans le manque d'air, étonné d'être en vie, à nous dans l'écriture et à nous sans les mots, à nous dans les ratures et dans nos sacs à dos, qui rêvons de forêt, qui rêvons de rivière, à nous dans le métro, qui cherchons la lumière, à nous qui poursuivons des perdants magnifiques, à nous dans l'illusion d'un chemin prophétique, à nous qui débordons dans les rires et les larmes, qui ne faisons pas le deuil de nos jours de flamme. Quand on avait 10 ans, à grandes enjambées, pédalant, pédalant pour l'éternité. Nous marcherons 1000 autres lunes, 1000 autres jours avant demain, avant que demain ne nous prenne les copeaux d'espoir que l'on tient. Traverserons 1000 autres dunes avec nos défauts, nos faux pas, avec nos semelles de brume, qui que l'on soit. À nous qui ne jouons ni aux pauvres ni aux fous, parce qu'on en voit d'autres sombrer face à nous. On peut avoir un toit et une corde au cou, on peut avoir des droits et marcher à genoux. À nous qui nous parlons, nombreux dans le miroir, à nous qui voyons double, qui voyons blanc et noir, à nous les trop polis qui n'en pensons pas moins, qui tendons l'autre joue mais qui serrons les poings, à nous qui passons pour des antipathiques et surtout pour des cons à chercher l'authentique, à nous dans les chansons d'il y a 40 ans, mais à nous qui guettons devant, 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 à nous dans les bobines, dans le grain maladroit, dans les cartes postales et dans les feux de joie, à nous qui ne vendrons jamais nos vérités, à nous qui imploserons et ça ne saurait tarder. Nous marcherons 1000 autres lunes, 1000 autres jours avant demain, avant que demain ne nous prenne les copeaux d'espoir que l'on tient. Traverserons 1000 autres dunes avec nos défauts, nos faux pas, avec nos semelles de brume, qui que l'on soit. À nous qui fuyons là où ça parle en vain de télévision ou de magasin, à nous qui sommes là, qui tombons comme chacun, dans le panneau, dans les réseaux, dans le vide et le trop-plein, mais qui nous préparons à quand ce sera fini, quand il faudra se parler et redevenir amis, quand on pourra se dire tout est son contraire, sans que ça doive passer par une carte mère, quand on ne pourra plus savoir qui va où, savoir qui vaut combien et qui se fout de nous. À nous sans drapeau, à nous sans étiquette, à nous sans lingots, à nous sans paillettes, à nous dans nos verres d'eau ou dans nos cafés noirs, qui ne maquillons pas nos nuits de déboire, qui ne trinquons pas sur les places branchées, qui siphonnent dans le vent notre fragilité. Nous marcherons 1000 autres lunes, 1000 autres jours avant demain, avant que demain ne nous prenne les copeaux d'espoir que l'on tient. Traverserons 1000 autres dunes avec nos défauts, nos faux pas, avec nos semelles de brume. Nous marcherons 1000 autres lunes, 1000 autres jours avant demain, avant que demain ne nous prenne les copeaux d'espoir.
espoir que l'on tient. Traverserons mille autres dunes avec nos défauts, nos faux pas, avec nos semelles de brume, qui qu'elle en soit.
À vous de l'autre côté du mur ou de la mer, dans des villes assiégées, le sang et la poussière. À vous sans la parole, à vous le ventre vide dans l'humiliation, à vous le cœur solide, à vous derrière les grilles sous les bombardements, à vous dans la noyade, à vous les dissidents, à vous dans l'injustice, à vous sous les verrous, à vos filles, à vos fils, à vous, à vous, à vous.
Alors Luc, qu'est-ce qui se passe? Pas de McCartney aujourd'hui?
Non, pas cette fois-ci, pas cette fois-ci. Pour cette première fois, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose de nettement plus important. C'est l'entrée au Panthéon du couple Manoukian, hein, résistant de la Seconde Guerre mondiale. J'ai trouvé ça tout à fait étonnant en Macronie et tout à fait insupportable. Tout à fait insupportable.
Un petit coup de gueule, quoi.
Un grand coup de gueule, un grand coup de gueule. Okay. Et c'est parti.
Il commémore au mois de juin, débarquement de Normandie. Il pense au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin.
Ce 21 février 2024, la République française accueille le couple Manoukian, Méliné et Missak au Panthéon.
Pourquoi ce choix ? On a déjà vu tant d'émissions sur ce thème dans les médias.
C'est vrai, mais revenons en arrière. L'occupant allemand a pris 7 mois pour les déclarer coupables et fusiller le groupe terroriste Manoukian. Et il aura quand même fallu 80 ans à l'État français pour les faire entrer au Panthéon. L'administration est lente, c'est bien connu. Missak Manoukian et ses camarades sont FTP-MOI. FTP, c'est-à-dire franc tireur et partisans. C'est le nom que se donnent les résistants durant la Seconde Guerre 39-45. Ils sont aussi MOI, soit main-d'œuvre immigrée, organisation dépendante du PC, pas l'ordinateur, hein, le Parti communiste. Mais ne cherchez pas, cela n'existe presque plus dans nos pays de nos jours. Manoukian est né en Turquie et est un enfant rescapé du génocide arménien. Au milieu des années 30, il est ouvrier chez Citroën à Paris. Il est pacifiste, poète et militant communiste. Tout pour plaire donc. Et pas de chance, car en 39, l'Allemagne envahit la France, entre autres. La police française traque alors tout ce qui peut potentiellement ressembler de près ou de loin à un opposant. Les juifs, communistes et autres anarchistes, aussi des résistants de tous bords politiques. Il est vrai que certains membres du groupe Manoukian avaient déjà goûté aux délices du fascisme en le combattant durant la guerre d'Espagne quelques années auparavant. Au programme, maniement des armes, stratégie et guérilla urbaine. Ça, c'est quand tout va bien. Ou bien, torture, être brûlé vif, fusillé, guillotiné, quand tout va mal. Et puis, dans la plupart des pays occupés, la grande majorité des gens font le dos rond face à l'occupation. En bref, on attend que ça se passe. Car comme disait Renaud, il y avait peu de Jean Moulin. Durant la guerre, à part le marché noir très à la mode pour survivre, une autre activité fonctionne très bien, c'est la délation. Tout ça pour dire que Manoukian et ses 22 camarades devaient se battre sur tous les fronts. Les Allemands devant, mais aussi les vrais Français derrière. Alors qu'il aurait pu tranquillement se contenter d'applaudir Pétain et se fondre dans la masse, les Manoukians choisissent d'utiliser des moyens de lutte à l'opposé de leurs valeurs, des moyens adaptés à la situation. Mais était-ce vraiment un choix? En France, à cette période, ces terroristes, c'est comme ça que l'occupant les appelle, utilisent grenades, explosifs et couteaux. En face d'eux, la police française utilise torture électrique, arrachage d'ongles, noyade et autres joyeusetés. Mais quand même, 80 ans pour entrer au Panthéon, c'est plus qu'il n'en faut, c'en est même dérangeant. C'est vrai que dans les trois décennies qui ont suivi la guerre, on n'en parlait pas beaucoup dans les médias d'État de Manoukian et de son groupe. On a bien eu en 76 la sortie d'un film français, L'Affiche Rouge, sur Manoukian bien sûr, mais il ne perce pas. Depuis début 60, l'inévitable diffusion annuelle du jour le plus long, en noir et blanc, entretient l'idée que ce sont les 20 000 morts nord-américains du débarquement en Normandie qui ont changé l'issue de la guerre. Heureusement, dans les années 90 et plus, voilà qu'arrive un peu de cinéma vérité, enfin. On a en 1998 le soldat Ryan, qu'il faut sauver bien sûr, et qui est le premier GI à avoir du sang sur son uniforme, contrairement à ses collègues du jour le plus long des années 60. Ah ben oui, la télé en noir et blanc bien sûr. En 2001, on a le film Stalingrad, en couleur, qui nous raconte cette première décisive raclée mise aux nazis. 1 100 000 morts côté soviétique. On n'allait bien sûr pas rappeler ça durant la guerre froide. Le film Indigène en 2006 n'a rien de mieux raconté que Noirs et Arabes sont venus mourir à la bataille des Ardennes. Un scoop. Et les pensions de veuves qui ne sont toujours pas versées, faudrait quand même veiller à ne pas traîner. Les producteurs cinématographiques sont donc très occupés et il aura fallu attendre 2009 pour que sorte enfin un film à succès sur Manoukian et son groupe, L'Armée du Crime. D'accord, le Panthéon renferme déjà des résistants depuis belle lurette. Et il est vrai qu'un préfet bien français, avec un nom comme Jean Moulin, passe mieux qu'un Manoukian, ouvrier, étranger, poète et communiste devenu terroriste, franchement.
On écoute « A las barricadas », hymne de la CNT, durant la guerre d'Espagne en 1936, un chant que Manoukian a dû sans doute entendre en live. Il y a eu par le passé plusieurs tentatives de faire entrer Manoukian au Panthéon. Elles ont toutes fait chou blanc. Exemple, en 2014, François Hollande refuse cette idée. Emmanuel Macron, grand ami de la gauche, se serait laissé convaincre finalement. Voilà Missak et sa femme Mélinée entrés au Panthéon, seuls. Alors que le concept de collectivité était l'essence même de leur lutte. Pourquoi cette volonté politique en 2024, après 80 ans, alors qu'une bonne partie de la population ne se souvient que très vaguement de la Seconde Guerre mondiale, et alors que Jean Moulin, tu viens d'en parler, y repose déjà depuis 1964 ?
En effet, la page est tournée depuis longtemps, et puis finalement, on les a mis dehors, nos occupants allemands. Nos pays sont donc libres, irréprochables. Et donc, c'est une époque qui s'est bien terminée finalement. On a été libérés par les Yankees, et c'est nous les bons. Et la France intronise enfin les Manoukians, morts pour elle. Alors quoi? Qu'est-ce qui coince? Ce qui coince, c'est justement qu'ils sont morts parce qu'ils luttaient contre cette France collaborationniste si proche de Macron et sa clique de droite. Mais peut-être Macron fait-il un clin d'œil aux gilets jaunes sur le style « Je vous ai compris !» Sauf que si on n'a plus la guerre sur notre sol depuis 1945, c'est bien parce qu'on l'a entretenue partout ailleurs dans le monde. C'est parce que nous suivons la logique de Trump et d'autres avant lui, entretenons la guerre ailleurs pour qu'elle n'arrive pas chez nous. on s'est réparti le monde à coup de guerre économique, de taux d'intérêt ou de spéculation. Et Nestlé qui, au Soudan, en pleine famine en 1985, déconseillait aux femmes d'allaiter et leur conseillait d'acheter du lait en poudre. Crever de faim, mais acheter, consommer, aider nos entreprises. Le monde est devenu sans frontières, en tout cas pour les manettes pleines d'argent, qui changent de pays à bord de petits biplaces discrets, pour les dictateurs qui fuient vers les pays riches dès que cela tourne mal pour eux, pour nos multinationales présentes partout dans le monde, avec le service de sécurité, regardant par-dessus les épaules des dictateurs entretenus. Et on coule dans l'acide de Lumumba par ici, et on entretient des dictateurs Mobutu par là-bas. On fait ami-ami avec Pinochet. On cache sous le bitume le cadavre de Che Guevara, qu'on ne sait pas plus simplement du syndicaliste ou du paysan. Et je te vends de l'armement par ici, et je te loue des formateurs en torture par là. Business is business. Un bon capitalisme bien compris, au-dessus des lois, au-dessus du bon sens, loin de l'humain. On va droit dans le mur et on accélère. Mais il en revient toujours du gauchiste, du gilet jaune, du révolutionnaire, des soyeux. Savent pas rester pauvres les pauvres sans se plaindre. Et en plus, ils veulent que cela change. Rarement, heureusement, ils sont prêts à risquer le peu qu'ils ont pour un monde meilleur. Ou en tout cas en remettant en cause le sacro-saint capitalisme. Bref, on fout une belle pagaille dans le monde sans voir le lien entre les bombardements en 2011 de la Tripoli de Kadhafi, grand copain de Sarko, avec les attentats de Bruxelles et Paris en 2016. Ou entre la France qui tient la tête sous l'eau des anciennes colonies avec son franc CFA et ces mêmes pays qui se tournent vers Poutine ou la Chine. On pourrait presque en vouloir, un peu, à ceux qui nous dirigent. Je ne parle pas du brave député ou sénateur honnêtement convaincu de sa nécessité et de l'importance de sa tâche. Ça me fout les jetons de présence. On le sait depuis un bon bout de temps que le pouvoir appartient avant tout à ceux qui possèdent capital, usine, actions. Donc les banques, les milieux de la grande industrie, leurs actionnaires et les mafias, rapaces en tout genre. Tout ce petit monde, tout ce système économique conforte son pouvoir, se remplit les poches, fait travailler au Congo des mineurs pour 150 euros par mois dans des conditions du siècle dernier, ou maintient artificiellement le prix des médicaments à la limite du supportable pour le pensionné plus proche de nous. Alors quoi, Macron et sa clique qui honorent maintenant Manoukian, mais c'est quoi ce mauvais film? Il y a erreur sur la personne. Les macronistes n'ont-ils pas reconnu, entre deux coupes de champagne, les descendants de Spartacus ou des spartakistes allemands des années 30, eux-mêmes annonciateurs des Che Guevara et plus tard d'Action Directe? C'est parce qu'ils n'avaient pas de gilet jaune à l'époque ou quoi? Quelle récupération honteuse de leur combat, de leurs idéaux. Manoukian représente tout ce que Macron vomit, exècre. Notre capitalisme domine le monde dit libre, mais dont les trois quarts sont pauvres. Tout le savoir-faire de nos pays réside à ce que ces pays nous donnent leur sous-sol pour pas cher. Qu'aurait fait Manoukian, le militant internationaliste, face à une telle oppression? Pourtant, il est au courant, Macron, de cette mauvaise herbe qui repousse toujours ses partisans de la désobéissance civile, ses activistes de l'écologie, ses femmes, ces empêcheurs d'emprisonner en rond à Arène, ces bloqueurs de TGV, ces déblogueurs d'Assange. Bref, ces embryons de Manoukian traités de terroristes pour trois vitrines cassées, subissant le durcissement des lois antiterroristes votées par ceux-là même qui s'inclinent aujourd'hui au Panthéon devant les restes de Manoukian et de Mélinée, sa compagne. Ces mêmes hypocrites qui les auraient fait fusiller en 44, entre plat et dessert.
Nous terminons bien sûr cette séquence en musique, mais sans fanfare, de manière convenue, il est vrai, avec Bernard Lavilliers, L'affiche rouge, chanson basée sur le poème d'Aragon écrit en 1956.
Qui s'appelait Manoukian, du groupe Manoukian. L'affiche rouge! n'aviez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans. Vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles et faisaient un effet de peur sur le passant. Nul ne semblait vous voir, français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient inscrit sur vos photos mort pour la France. Et les morts de matin en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: je meurs, bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les larmes. Adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini pour nous, on errera. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sous nos pas triomphants, ma mélinée ou mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.
Une séquence produite par l'émission Les Soyeux du Dimanche de Radio Air Libre, mars 2024.
Merci à Emmanuel et à Luc pour cette piqûre de rappel. On écoute HK. J'ai marché jusqu'à vous.
Les coups de sang, les coups du sort, les coups de poing, les coups encore. J'en ai reçu plus qu'à mon tour, j'en ai reçu jusqu'à ce jour. J'ai quitté mon petit village en portant pour seul bagage des restes de rêves d'enfant, des gentils qui gagnent à la fin. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai eu peur, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, mille fois j'ai fait ce rêve, je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous, je suis là, voyez-vous. Mille fois j'ai fait le vœu, je vous en fais l'aveu, de me voir un jour dans vos yeux. Les petits chemins retirés, les routes fleuves et les forêts, les vastes plaines et les plateaux, les grandes villes comme en photo. Je marchais tant que j'ai pu, tant de fois je me suis perdu. Les trains, les camions, les bateaux,
les coups de blues, les coups de couteau. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai eu peur, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, mille fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous, je suis là, voyez-vous. Mille fois j'ai fait le vœu, je vous en fais l'aveu, de me voir un jour dans vos yeux. Combien de pays traversés, combien de frontières dépassées, et me voilà, m'en voulez-vous, je n'avais pas pris rendez-vous. De mon histoire, vous savez tout, arrivé seul et sans le sou, mais surtout arrivé en vie, comprenez pourquoi je souris. J'ai marché jusqu'à vous, j'y ai cru, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, mille fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous, je suis là, voyez-vous. Mille fois j'ai fait le vœu, je vous en fais l'aveu, de me voir un jour dans vos yeux. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai eu peur, je l'avoue. Mille fois j'ai fait ce rêve, mille fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai marché jusqu'à vous, j'ai marché jusqu'à vous.
Passionné par de nombreuses disciplines artistiques et notamment par le cinéma, raison pour laquelle j'aborderai ce matin un film qui m'a beaucoup interpellé et que j'adore pour plusieurs raisons. Il s'agit de Amal, du réalisateur belgo-marocain Jawad Ralib, avec dans le rôle principal Lubna Azabal, dont le jeu me fascine toujours et dont je vous parlerai dans quelques secondes. Amal, espoir en langue arabe, je l'ai découvert en janvier au Ramdam, le festival tunisien du film qui dérange. Amal, je l'avais d'abord choisi quand j'avais pris connaissance de l'affiche qui présentait une femme apparemment assez fragile, mais au regard acéré, déterminé, renforcé par un visage anguleux et des cheveux brun foncé tirés vers l'arrière. Le visage, je ne l'avais pas oublié parce que je le connaissais depuis Incendie en 2012 du réalisateur canadien Denis Villeneuve. Vous savez, le réalisateur entre autres de Dune 1 et de Dune 2. Incendie, c'est un film qui marque vos tripes au fer rouge. Un drame familial qui vire littéralement à la tragédie grecque. Ce visage, c'est celui de Lubna Azabal. Une personnalité très attachante qui reçut à côté de nombreuses distinctions pour le Magritte en 2012 déjà pour Incendie et un nouveau Magritte il y a quelques jours, le 9 mars 2024 à Bruxelles, pour sa prestation dans Le Bleu du Caftan de Mariam Touzani. Une création tout en douceur, en finesse, en élégance, comme celle de la beauté du caftan que les doigts d'artistes confectionnent durant toute l'histoire. Amal Oramdam, c'est le prix de la meilleure fiction, c'est celui du public. Ce sont des salles combles, subjuguées, je suppose, par la bande-annonce où la prof de français fixe ses élèves d'une école bruxelloise et leur jette à la figure « Pour la énième fois, Allah n'a rien à faire dans ma classe. » Bang. Amal est musulmane et s'adresse, entre autres, à une poignée d'élèves qui se sont laissés embrigader dans le faux paradis des vierges. Amal reproche aux intégristes de devoir s'excuser chaque jour d'être musulmane. Ce sont les propres paroles du personnage dans le film. Et dans cette création, c'est très clair. Ce n'est pas un film contre la religion islamique, contre une communauté, mais contre l'intégrisme, lavage de cerveau organisé par les fous furieux de l'extrême droite religieuse. Comme d'autres fous furieux d'ailleurs, pas nécessairement intégristes, qui ne respectent aucune autre couleur que la leur, aucune autre croyance que la leur, aucun autre mode de vie que le leur, aucun autre village que le leur, aucune autre rue que la leur. Amal sent ses élèves et remarque que Monia, une jeune musulmane de sa classe, est victime de harcèlement. Il la soupçonne d'être lesbienne et vont organiser sa destruction. Il, vous avez deviné de qui il s'agit. Ce sont ceux qui imposent une certaine vision de l'islam, ceux qui se présentent comme les vrais, les purs, les censeurs de la foi, ceux et celles qui ne doutent pas, car ils connaissent leur vérité révélée. Et des parents tenteront même, lors d'une réunion avec la directrice de l'école, d'infléchir le programme officiel qui ne leur convient décidément pas. Les premières images du film interpellent. Elles montrent le dos de Monia, tuméfiée, qui, sous la douche, espère effacer cette violence. Un tatouage révèle une sentence qui entoure une rose en fleurs. « Memento mori ». Souviens-toi que tu dois mourir ou souviens-toi que tu vas mourir. Amal remarque en classe l'œil blessé de Monia, lui pose des questions, mais aucune réponse. La jeune fille a peur et ne veut pas dénoncer ses bourreaux. Alors Amal décide la provocation, la réflexion, l'interrogation, mais surtout, elle est persuadée que la lecture est une ouverture au monde, aux autres, à la rencontre, à la connaissance et à la liberté de penser. Elle va choisir la culture arabe et l'un de ses plus grands poètes, Abu Nawas, du 8e siècle. Il est musulman et homosexuel. Cette facette de son identité, il semble la revendiquer dans ses écrits. Jawad Ghalib, le réalisateur belgo-marocain du film, dira ceci lors d'une interview à Synergie. Le sujet principal est celui de la liberté d'enseigner, la liberté d'expression, mais d'autres sujets viennent se greffer autour, comme le harcèlement, l'acceptation de l'autre, l'acceptation de la différence. Une liberté d'enseigner qui est menacée, dit-il, par toute forme d'expression extrémiste. Impossible d'enseigner Abu Nawas aujourd'hui. Moi, j'ai étudié au Maroc, j'ai étudié Abu Nawas en arabe, où les mots étaient beaucoup plus crus qu'en français, vraiment. Mais je l'ai étudié comme d'autres poètes. Moi, il a changé ma vie, mais depuis, il a disparu des manuels scolaires, des bibliothèques. Quand Amal présente le poète qui, dit-elle, aimait aussi bien les hommes que les femmes, plusieurs élèves se lèvent et quittent la classe, dont Jalila, la principale harceleuse, incitant Monia au suicide par les dessins qu'elle distribue en classe, mais aussi par ses interventions sur les réseaux et son opposition physique à Monia. Amal est seul, et se sent seul. Ses collègues préfèrent un certain repli. La directrice, interprétée par l'actrice belge Catherine Salé, met trop d'eau dans son vin. Et le professeur de religion islamique, interprété par un Fabrizio Rongione, très impressionnant dans la duplicité meurtrière, va la saper. Je n'en révélerai pas davantage et vous laisse découvrir la lutte d'Amal. Je termine ce billet par un extrait du témoignage que Loubna Azabal a confié aux critiques de la RTBF Hugues Daillé. J'ai tout de suite dit oui, dit-elle, au projet qui m'était proposé par le réalisateur. D'abord, parce que c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet qui nous concerne toutes et tous. Je trouvais que c'était important pour moi, qui ai cette légitimité due à ma culture maghrébine, par mes parents et ma culture musulmane. On laisse ce terrain à qui ? À l'extrême droite ? C'était aussi ma façon de crier, pas en notre nom. D'autant, dit-elle plus loin dans l'interview, que quand Jawad m'a proposé le film, il n'y avait pas encore l'affaire Samuel Paty. On était bien en amont. Et là, c'était un choc terrible. J'ai ressenti de la honte, une honte profonde, cette envie d'hurler dans les rues, mais arrêtez, arrêtez quoi ? Arrêtez d'aller chercher chaque fois Allah pour commettre vos crimes. Parce qu'Allah n'a rien à voir là-dedans. Et je me sens sali. Dans le film, rien ne stigmatise la communauté musulmane ou l'islam, précise-t-elle. Par contre, on dénonce un mouvement sectaire qui tire ses racines de l'islam. Il faut sortir, il faut le crier haut et fort. Se taire, c'est peut-être maladroitement accepter ou être complice. Je dis bien maladroitement. Loubna est accompagnée par de nombreux jeunes talents qui contribuent avec beaucoup de justesse, me semble-t-il, à la vraisemblance du récit. J'ai choisi comme finale musicale « Les enfants paradis » de Damien Saez, chanson dédiée aux victimes du Bataclan à Paris. En novembre 2015, je vous souhaite un excellent film.
Ils étaient des sourires, ils étaient des sanglots, ils étaient de ces rires que font les chants d'oiseaux. Ils étaient des matins quand on va à bord de mer, ils étaient cœur chagrin, ils étaient cœur lumière, ils étaient des poèmes, ils étaient des oiseaux, ils étaient des je t'aime, qu'on dit bord du ruisseau, ils étaient du café, ils étaient du bistrot, ils étaient étrangers, ils étaient sans drapeau. Ils étaient de Paris, ils étaient de province, ils étaient cœur de pluie qui font mon cœur qui grince. Ils étaient pleins de vie, avaient l'œil du printemps. Ils étaient cœur qui rit quand le ciel est pleurant. Ils étaient des promesses, ils étaient de venir. Ils étaient bien trop jeunes, oui, pour devoir partir. Ils étaient fils d'Orient, fils de l'Occident, enfants du paradis, enfants du Bataclan. Ils étaient cœur français ou international. Ils étaient la rosée qui pleure dessous le châle. Ils étaient des promesses. Ils étaient des bourgeons qui font monter tristesse. Ils étaient des chansons. Ils étaient des familles. Ils étaient des amis. Ils étaient ceux qui brillent dans le ciel de la nuit. Ils étaient amoureux, ceux qui se sont blottis l'un contre l'autre à deux, contre la tyrannie. Ils étaient comme toi, ils étaient comme moi. Ils n'étaient pas guerriers, mais sont morts au combat. Ils étaient cœur d'amour, ils étaient cœur qui bat, puis qui battra toujours, même en dessous la croix. Ils étaient ses amis que je connaissais pas. Ils étaient mon pays, et puis le tien, je crois. Ils resteront Paris, Paris se souviendra toujours de ses amis, la lumière brillera. Il s'appelait je t'aime, il s'appelait jeunesse, il s'appelait poème, il s'appelait tendresse, il s'appelait frangine, il s'appelait frangin, il s'appelait gamine, il s'appelait gamin, il s'appelait la joie et puis la non-violence, il s'appelait je crois les enfants de la France, de tous les horizons puis de tous les prénoms, il s'appelait amour, s'appelait l'horizon, il s'appelait Jacques Brel puis je crois Barbara, il s'appelait le ciel, il s'appelait pourquoi, toujours ici sommeil, l'horreur au creux du bois, qui rejoint l'éternel, va l'innocent, je crois. Ils étaient point levés, ils étaient nos concerts, ils étaient cœur serré, oui, face aux tortionnaires, ils étaient cœur deuillé, des fleurs face aux fusils, à nos cœurs endeuillés, nous pleurons nos amis, à l'innocent qu'on tue, oui, tombé sous les balles, aux soldats inconnus. sous l'horreur des mitrailles. Si sont les lettres mortes, les cantiques du chagrin, puisque frappe à la porte les plaines de Verdun. Si sont tombés ce soir, en ce vendredi noir, les frères de mon pays, nous laissant désespoir. Mon pays, ta culture est morte, assassinée. Mais tu sais, ma culture n'en ne mourra jamais. Toi mon pays Molière, toi mon pays Vinci, toi mon pays Voltaire, toi mon pays Valmy, toi mon pays la terre, toi mon pays Paris, toi mon pays par terre, relève-toi mon pays, toi mon pays lumière, toi mon pays la vie, mon pays littéraire, mon pays triste vie, toi mon pays mes frères, toi frère de mon pays, comme on chérit sa mère, on chérit sa patrie.
Merci Christian pour cette séquence artistique. Martine n'est pas là, mais on pense bien à elle. Et on va écouter sa séquence qui s'intitule « Les yeux dans les vieux et les oreilles dans les vieilles ». Aujourd'hui, Martine s'entretient avec Suzanne, une dame de 99 ans qui a l'intention de continuer à vivre avec beaucoup de sérénité et de sagesse. Voici.
Well, we know.
Les yeux dans les vieux, les oreilles dans les vieilles.
Les yeux dans les vieux, les oreilles dans les vieilles.
Les yeux dans les vieux, les oreilles dans les vieilles.
On est toujours la vieille de quelqu'un, ou inversement. Jusqu'à ce jour, l'inversement me convenait plutôt. La curiosité me pousse à rencontrer des personnes plus abîmées encore par le temps, qui s'est empressé de détendre les chairs, de ralentir les pas, de refouler la sève, comme pour les arbres, afin de se préparer à de nouveaux élans et de nouvelles conquêtes, pourvu qu'on en préserve le cycle. Épuiser ses ressources, comme on le fait pour la terre, exploitant toujours plus jusqu'à l'épuisement, devrait nous guider à prendre d'autres voies. Tout comme la terre, nous n'en avons qu'une de vie. Ainsi, dans mon immeuble vit Suzanne, 92 ans bien sonnée, toujours pimpante et guillerette quand je la croise.
Je m'appelle Suzanne, je vais avoir 93 ans, je suis une bruxelloise pur jus, célibataire endurcie. Je crois que j'ai eu une vie compliquée comme toutes les vies, avec la guerre et des ennuis de santé quand j'étais jeune. Mais j'ai eu une vie intéressante, une belle vie. Je suis assez contente de ma vie, finalement. Sûrement, même.
Comment vous vivez votre vieillesse ?
Gaiement. Le plus gaiement possible. J'ai une chance. Ça vous tombe dessus. Je n'ai rien. Je veux dire, je n'ai pas de maladie, aucune. Je suis un peu plus lente, je suis sourde, mais appareillée. Mais je n'ai pas de problème de santé, aucun. Donne de grandes perspectives, si l'on peut dire, et ça permet beaucoup de choses, bien entendu, à tout âge, mais surtout au mien.
Toujours pimpante et guillerette, quand je la croise sur le pas de la porte, avec son caddie ou ses cabas de linge sale qu'elle porte à laver, repasser, plier, chez le Marocain tellement compétent de la place Orban. Ses tenues me surprennent par les associations de couleurs et d'accessoires qui raccrochent tantôt au rose, tantôt au blanc, qui a présidé à son choix du matin. Toujours un trait d'humour qui pointe derrière ses yeux malicieux et qui ont oublié les lunettes après une opération plus que réussie de la cataracte. Mais Suzanne en parle mieux que moi. Vous êtes coquette aussi.
Ah oui, ça c'est dans la tradition, dans la famille. Les femmes dans ma famille s'habillent et se soignent. C'est pour moi. Pensez bien que je ne tâche plus de séduire personne, mais j'ai toujours été comme ça. Et comme je dis souvent, c'est vrai, il faut soigner l'emballage à certains. C'est pas gai d'être vieille. Mais si en plus il faut être moche et se laisser aller, comme on peut, bien entendu, chacun selon ses possibilités. Voilà, effectivement, je m'habille, je me soigne, je me maquille, je m'arrange comme je peux, le mieux possible.
Quand elle sonne à ma porte, pour l'un ou l'autre service, c'est une Suzanne hirsute à qui j'ouvre mon antre, affublée d'un long vieux t-shirt, de ses pantoufles et d'un peignoir élimé. Elle parle fort, car elle a enlevé ses appareils. Elle a reçu une nouvelle box qu'il faut installer, mais elle ne peut se mettre à quatre pattes pour câbler la bête et retrouver ses documentaires et ses journaux parlés qu'elle écoute après avoir lu son soir quotidien. On convient d'un moment, et c'est à mon tour de pénétrer dans 80 ans de souvenirs étalés sur les murs, dans les armoires, des photos, des souvenirs de voyage. Elle en a fait pas mal, Suzanne.
Oui, j'ai voyagé beaucoup, et je dirais pas très loin. Je ne suis jamais allée en Amérique, je ne suis jamais allée en Asie, mais... Je suis célibataire, comme je l'ai dit, mais j'ai eu un compagnon, bien entendu. Lui, comme moi, nous étions férus d'archéologie gréco-latine. Donc, nous avons beaucoup voyagé tout autour de la Méditerranée. Nous avons fait tous les pays où la Grèce et Rome ont posé des jalons, si j'ose dire. Mais vraiment plusieurs fois. Mais sinon, j'ai fait tout le tour. Bien entendu, j'ai aussi été ailleurs. Hein. J'ai beaucoup voyagé en France, j'étais en Allemagne, j'étais en Hollande, en Espagne quelquefois, tard. Parce que du temps de Franco, je ne voulais pas y aller. Et voilà. Et de tout ça, j'ai ramené des choses, des souvenirs, effectivement. Ça va d'une carte postale à un tapis. Parce que ça me fixait. J'en parlais dans ma famille. J'étais libre de faire ce que je voulais. Quand on est célibataire, tout à fait, on fait ce qu'on veut. Et je vous dis, j'ai eu un compagnon, mais on avait soigneusement gardé chacun notre appartement. Ce qui, à partir de 40 ans, est une idée que je qualifierais de géniale. Ça marchait très bien.
Et vous voulez encore voyager? Vous vouliez aller à Malte?
Oui, je voulais aller à Malte. J'avais réservé un voyage, j'avais payé un acompte et tout. Et alors, le petit Covid est arrivé et je n'ai pas été à Malte. Et depuis, le voyage n'a pas été réorganisé tout de suite, toujours à cause de l'épidémie. Et maintenant, je dois dire que j'hésite un petit peu. Il y a une question matérielle. Je ne sais pas. Peut-être que si je me sentais bien, que mon ami qui appartait avec moi en parlait, je le ferais quand même. Parce qu'enfin, je suis allé à Nice en avion, on en est passé. C'est pas un danger d'aller en avion, c'est pas ça. Mais aussi, c'est fatigant. Malte est accidenté. Et j'ai dit que je n'ai rien, c'est pas tout à fait vrai. J'ai le cœur un peu fatigué. Pas une maladie de cœur, mais un peu usé, quoi. C'est l'usure locative, hein, c'est tout. Moi aussi, je suis un peu usé. Hein.
J'aime bien votre idée d'usure locative.
Oui, mais c'est ce que j'ai dit au cardiologue la première fois quand il m'a dit, vous avez une valvule un peu déficiente, c'est d'usure locative. C'est vrai ça, il m'a dit, voilà. Et alors, deux, trois années après, il m'a dit, la seconde, elle est un peu fatiguée aussi. Mais j'ai dit, ça ne m'arrangera pas. Hein. Mais je n'ai rien, je n'ai pas de traitement, rien du tout. Il m'a simplement dit, faites attention au froid et à l'altitude. Quand je ne comptais pas aller faire l'Everest cette année, c'est parfait. Je ne pourrais plus, même si j'en avais envie ou les moyens, aller à Mexico, par exemple. Je le sais, parce que je suis allé dans les Dolomites. À 1200 mètres, je pouvais déjeuner, regarder les autres qui tombaient dans la neige, parce que moi, la neige, j'ai les sports, j'ai horreur de ça. Mais je suis monté à 1700 mètres, c'était la limite. Je fatiguais. Je peux m'abstenir de grimper dans les montagnes à mon âge. Hein. Bon, pas d'avoir froid, donc ça tombe bien.
Donc vous êtes très bien ici, à Forêt, au niveau de la mer.
Oui, je suis au niveau de la mer, je suis très bien. Ici, je suis très contente. J'habite ici depuis 54 ans. Parfois, on me dit, ça a changé. Oui, ça a changé. Moi aussi, j'ai changé. Je tombe de temps en temps sur un beauf raciste qui commence à vouloir parler du quartier. Là, je coupe, comme j'ai mon franc-parler, je coupe court tout de suite. Je mets tout de suite les choses en place. Parce que c'est vrai que c'est un quartier avec beaucoup d'émigrés. Bon, ça ne me gêne pas du tout. Maman disait toujours, toi, tu as un chien avec un chapeau, tu lui parles, oui. Et comme il me répond, ça va. J'ai le cas avec les jeunes gens du quartier. J'ai vu naître à peu près tous les gens de 30 ans du quartier qui me connaissent tous, qui me disent bonjour. Et il m'est arrivé plusieurs fois que des jeunes gens me disent bonjour madame, je dis bonjour jeune homme. Et on m'a déjà dit, Vous dites bon, on dit bonjour et vous répondez. Eh bien oui. La plupart des vieilles dames, permettez-moi l'expression, elles font la gueule. Mais moi pas, pourquoi je ne répondrais pas? Résultat, je suis très bien entouré, pas seulement par mes voisins, mais par des gens du quartier. Enfin, je suis tout à fait en sécurité dans le quartier, ça je le sais bien. Voilà. Et je suis mêlé à des tas de trucs d'ailleurs, avec la commune, on fait des photos. Oui, absolument, les photographes de la commune, je suis quand même presque une antiquité. Et que je suis capable, comment dirais-je, je suis en état de répondre. Certainement des gens aussi âgés que moi, mais qui sont plus en moins bonne forme, disons. Hein.
Une fin d'après-midi, on se croise. Et je vois Suzanne toute chamboulée. On lui a volé son sac dans le métro. Mais ça n'est pas pour les 25 euros qui s'y trouvaient. Toutefois, elle est choquée. Ça l'a mise en état de stress. Elle devait refaire ses papiers, bloquer sa carte de banque. Elle est donc passée me voir pour ça, mais je n'étais pas à la maison. Alors, sa petite voisine de palier l'a aidée et a fait le nécessaire. Il lui faudra 3-4 jours pour se remettre du choc. Mais aujourd'hui, elle a rendez-vous pour le tournage d'un film dans lequel elle figure. Qu'est-ce qu'il raconte, ce film ?
Eh bien, je fais partie d'une association qui est la Fédération des seniors, où se trouvent des tas de seniors qui font de tout. Des gens dans mon genre, bien sûr, je veux dire des gens actifs. Et il y a des tas de possibilités. Et ils ont des thèmes pour avoir un sujet quand même, un fil rouge dans les activités. Et l'année passée, la directrice a fait la connaissance d'un cinéaste belge qui a fait des films sourds, des documentaires. Et il aurait bien voulu faire quelque chose sur les seniors. Et ils ont décidé, ils ont choisi 4 personnes. Il y en a 5 parce qu'il y a un couple. Donc 4 personnes indépendantes, dont un avec sa femme, 2 hommes et 2 femmes. Ils nous ont demandé d'évoquer un moment de notre vie qui est évidemment passé, mais dans un endroit qui a complètement disparu. Alors évidemment, à Bruxelles, on a eu le choix hein, avec les endroits qui ont complètement disparu. Ils en ont fait un film. Et je ne l'ai pas encore vu, mais il semble qu'il soit réussi, modestement, enfin que ça soit amusant et bien fait. Et c'est un film qui doit durer à peu près 1 heure, quelque chose comme ça, parce qu'on nous a interviewés tous les 4, 3 à Bruxelles et le couple est à Liège. Moi, je suis né dans les Barolles, alors avec la jonction Nord-Midi, derrière la chapelle, pour ce qui est des trous, je ne crains personne, j'ai vu des trous toute ma vie autour de moi. Et nous avons donc filmé dans ce coin-là, et j'évoque des endroits disparus et quelques anecdotes du coin, bien entendu.
Un matin comme tous les autres, un nouveau pari, rechercher un peu de magie dans cette inertie morose. Clopin clopin sous la pluie, jouer le rôle de sa vie. Puis un soir le rideau tombe, c'est pareil pour tout le monde.
Alors, quelque chose de moins gai que vous m'avez raconté, parce que vous étiez assez troublé, c'est le lendemain ou le surlendemain d'un dîner, parce que vous faites souvent des dîners avec vos amis.
Oui, absolument.
Et donc, quand on vieillit, des choses surprenantes parfois nous arrivent.
Oui, j'avais une amie d'une 20aine d'années, que j'avais connue à la Fédération d'ailleurs. Elle était vraiment à l'opposé de moi, tout à fait. Je veux dire par là qu'elle était discrète. Beaucoup de gens la prenaient pour une ancienne religieuse. Non pas pour ses convictions, mais pour son attitude. Elle était très discrète, toujours habillée avec soin, avec goût, mais toujours dans des tons bleu marine, avec le col chemisier, vous voyez, une petite chaîne autour du cou, tout à fait charmante. Et nous nous entendions très bien. Et alors, très curieusement, ça faisait rire tout le monde, avec ses goûts ultra classiques, quand nous échangeions quelquefois un petit cadeau, une babiole hein, pour les anniversaires ou quoi, elle m'achetait toujours des trucs dont elle disait « Moi, je ne l'aurais pas mis, je pense bien. » Elle m'achetait des colliers et des trucs absolument pas impensables que moi, je porte. Elle avait le goût de choisir, et pour les autres aussi, elle avait beaucoup de goût. Et depuis quelque temps, elle avait fait une chute. Elle venait moins aux conférences. Nous suivons beaucoup de conférences. Elle venait moins. Elle ne voyageait plus. Elle venait manger avec nous, mais elle disait « je n'ai pas beaucoup d'appétit », etc. Bon, Alors un jeudi, effectivement, nous avons été au midi du cinéma, comme nous faisons, et nous nous sommes offerts après un déjeuner à quatre. Et ce qui nous a fait plaisir, on s'est regardé les deux, qui allaient bien, c'est qu'elle a mangé avec un grand appétit. Elle a pris un apéritif, elle était très très bien. Et le vendredi, elle est allée déjeuner dans un snack parce qu'elle détestait cuisiner. Elle a fait un malaise près de chez elle. On l'a emmenée à l'hôpital et il semble qu'on ait diagnostiqué quelque chose de très grave, de létal, et elle a refusé de se faire opérer. Je qualifierais ça de mort assistée, parce qu'elle savait bien qu'une opération intestinale qu'on ne fait pas, elle est décédée pendant la nuit. Et elle est encore là. De temps en temps, comme nous fréquentons toujours les mêmes endroits, on regarde la chaise où elle n'est plus. Bien sûr, je m'en remets, on se remet de tout dans la vie, mais ça, elle nous manque de temps en temps. On dirait qu'elle avait 93 ans, hein, moi-même, je sais bien, je ne fais plus de plan sur la comète. Je me dis, tiens, je vais faire ça. On verra.
D'ailleurs, vous allez voir Starmania.
Je vais voir Starmania. J'ai vu La Création, bien entendu, il y a moins de 50 d'années, avec encore Morane, Michel Berger, Daniel Balavoine, les créateurs. C'était un spectacle superbe. Et j'ai envie de voir ce qu'ils en ont fait. Il n'y a pas de raison. Nous y allons avec les mêmes amis, sauf celles que nous avons perdues, bien entendu.
Parmi vos activités, qu'est-ce que vous faites au fil de vos journées ?
Actuellement, ce que j'aime, d'abord du fait de la fédération dont je fais partie, je présente les conférences universitaires. Il y en a deux ou trois par semaine, j'y assiste, il y a des tas de sujets, comme presque tout m'intéresse, surtout l'histoire et l'art. Je les présente, je connais beaucoup de monde, je fais des introductions, je fais l'accueil des visites aussi. Ensuite, je lis, beaucoup mais pas assez. Ça, c'est... Je suis comme tout le monde, j'ai derrière mon canapé les 300 livres que je vais lire incessamment sous peu, que ça ne saurait tarder. Bon, voilà, il n'y a pas de meubles chez moi finalement. Je n'ai pas pensé à m'acheter une belle salle à manger et tout ça. Moi, je m'en fichais, je n'avais pas de couple, je n'avais pas de ménage, donc j'ai acheté ce que j'aimais, des bibliothèques et des livres. Je cuisine, j'aime bien cuisiner. Et puis j'aime bien me balader, je fais de temps en temps de shopping, comme tout le monde. Je suis une femme normale, de temps en temps, puisqu'on dit que je suis coquette, et c'est vrai, je vais de temps en temps faire un tour dans les magasins. Je vais beaucoup au théâtre, quelquefois au cinéma. Je vais visiter des expositions, je fais des balades, des excursions, quand c'est possible. Donc je suis occupée, il n'y a pas de problème. J'avoue, n'ayant jamais été une grande ménagère, forcément je travaillais pour des raisons familiales, c'est moi qui entretenais la famille, mon père était malade. Donc le ménage, ça ne me passionne pas, sauf la cuisine, dont je me suis déchargé de tous les problèmes matériels. Pour l'instant, eh bien, comment dirais-je, tout va bien. Voilà. Je viens d'avoir un gros problème de vision. Comme beaucoup de gens, j'ai aussi, j'ai été opéré avec un grand succès. Si on me demandait la question, est-ce que vous êtes bien et heureux, je dirais oui. Bon, je suis seul. La plupart des femmes sont seules, d'ailleurs, à un certain âge. Mais à part ça...
Seule mais bien entourée.
Mais exactement, je ne suis pas solitaire, je ne suis pas une pauvre petite vieille perdue dans son fauteuil devant la télé mangeant des biscuits. Non, je suis bien entourée, j'ai beaucoup d'amis, j'ai un peu de famille avec qui je m'entends très très bien. j'oserais dire que tout va bien.
Merci, Suzanne.
Mais il n'y a pas de quoi, c'est un plaisir.
Les yeux dans les vieux, les oreilles dans les vieilles.
Et on remercie Martine pour cette belle séquence. On écoute maintenant Fort Dimanche, forcément c'est aujourd'hui, Fort Dimanche de Leila McCalla. Et ça sera suivi directement par la séquence de jazz des Soyeux et des Soyeuses. Marie-Lou Williams, pianiste et compositrice. Et c'est l'épisode numéro 1 consacré à cet artiste.
Fort Dimanche, par Chaussage.
Est-ce que Gade Moon, ancien fois dimanche, qui mettait tête ensemble, ou yon va la clope au moins?
Malin obéit son chapeau, Malin obéit son chapeau, porte à terre pas gommé, n'a pas d'affaire, porte à terre pas gommé, n'a pas d'affaire, Malin obéit son chapeau. Malin obéit son chapeau. Faut dimanche t'y en prison tout veiller. Faut dimanche t'y en prison tout veiller. Ma coude yo voyem na cache au prison. Mouette fait.
You know, when I was growing up under Duvalier, during the Duvalier years of the dictatorship in Haiti, to me it was a period of silence and of fear. I was 17, my family, my uncle, my aunt and four of my cousins were arrested and they were killed. They were taken to Fort Dimanche, the infamous prison under the Duvalier regime, and they were killed. And to me, that event really marked my choice. I decided that I could no longer accept this to continue. And one way I thought I could change it is by being a journalist.
Fort Dimanche, t'es en prison sans conscience. Fort Dimanche, t'es en prison sans conscience. Ma coude, yon voyant na cacho prison.
Le jazz des Soyeuses et des Soyeux. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Marie-Lou Williams. Représentante emblématique du piano stride, compositrice et arrangeuse reconnue du swing, soutien de plusieurs initiateurs du bebop, pionnière du troisième courant, qui se veut une synthèse du jazz et de la musique classique européenne, c'est Marie-Lou Williams, dont Duke Ellington disait « Elle est toujours contemporaine, son écriture et son jeu ont toujours été un peu en avance tout au long de sa carrière. » Elle a 20 ans en 1930, lors du premier enregistrement sous son nom. On écoute « Nightlife », une de ses compositions.
Thank you.
Mary Lou Williams est une pianiste et compositrice de jazz afro-américaine. Elle est née en 1910 à Atlanta, en Géorgie. Sa mère est pianiste et organiste à l'église baptiste. Mary va donc se familiariser très tôt avec la musique. Dès son plus jeune âge, elle est capable de reproduire exactement une mélodie qu'elle a entendue. Elle apprend le piano seule, encouragée par ses proches. Dès ses 6 ans, elle joue dans des fêtes locales. À 15 ans, elle est embauchée dans un circuit de théâtre populaire. Elle y rencontre le saxophoniste John Williams, qu'elle épouse. Ils s'installent à Memphis, où ils montent leur propre orchestre. Environ 2 ans plus tard, John rejoint la formation d'Andy Kirk, les Clouds of Joy, suivi quelques temps plus tard par Mary Lou. Mary Lou, à l'époque, joue toujours de mémoire. Elle ne connaît pas l'écriture musicale. Andy Kirk, conscient de ses dons de compositrice, lui conseille d'arranger ses morceaux, lui explique le fonctionnement des accords et leur écriture. Dès les premiers enregistrements du groupe en 1929, on retrouve plusieurs compositions et arrangements de Mary Lou Williams, qui joue aussi le piano. Voici en 1938 Little Joe from Chicago, qui fut un succès du groupe. Le morceau qu'on vient d'entendre, Little Joe from Chicago, est l'un des très nombreux que Mary Lou Williams a composé et arrangé tout au long des années 1930 pour l'orchestre d'Andy Kirk. Et ce n'est pas sa seule activité pendant cette période. Des producteurs l'enregistrent en trio, en quartet et dans des formations plus larges. Elle compose et arrange aussi, par exemple, un boogie-woogie pour Benny Goodman en 1937 intitulé Roll'em. On écoute une version enregistrée en 1944 par Mary Lou Williams et ses Chosen Five. Thank you. En 1942, Mary Lou Williams divorce et se sépare des 12 Clouds of Joy d'Andy Kirk. Elle se remarie, forme un septet, puis travaille brièvement pour Duke Ellington, pour qui elle écrira encore de nombreux arrangements par la suite. Elle se sépare de son mari et s'installe à New York. Elle joue au Café Society et commence une émission de radio hebdomadaire à laquelle elle convie la nouvelle génération des musiciens bebop. Son appartement devient un lieu de rencontre où il joue et compose. Son émission de radio est aussi l'occasion de présenter par épisode sa Zodiac Suite, œuvre tout à fait originale, où elle mélange le jazz et des éléments de musique classique. J'y reviendrai dans un prochain épisode. Pour l'heure, voici un morceau avec des échos de fugue, Lonely Moments, dans une version au piano solo enregistrée à New York en 1946. Restons à New York en 1946. Un critique de jazz lance l'idée d'un orchestre exclusivement féminin, qu'il est prêt à produire. Mary Lou Williams n'est pas très enthousiaste, mais elle accepte. Ce sera le Mary Lou Williams Girl Stars. Voici Harmony Gritz, une de ses compositions, proche du bebop. Thank you. C'est ici que se termine le premier épisode de cette mini-série sur Mary Lou Williams. Dans le prochain, nous la retrouverons au milieu des années 1940 avec sa Zodiac Suite. Et voilà, chers auditeurs, chères auditrices, vous avez eu le plaisir et nous avons le plaisir de réaliser cette première émission de LSD sur Radio Air Libre, les Soyeux du Dimanche. Tous les quatrièmes dimanches du mois, c'est-à-dire on se revoit, on se réentend le 28 avril, plus la rediffusion, toutes les deux semaines entre deux. Voilà, c'est aussi simple que ça. On émet sur 87 FM, mais ça vous le savez. On est aussi une web radio. Et on aimait aussi en DAB. Bon dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Les Soyeux du Dimanche, sur Radio Air Libre, 87.7 MHz, chaque quatrième dimanche du mois, à partir de 11h.
Et votre programme, c'est de faire chier le monde?
Non, c'est de titiller plutôt.